L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'AJT du local de ce vendredi 21 mai 2021. Aujourd'hui, on va parler évidemment du théâtre de Laval, toujours occupé malgré la réouverture des lieux culturels mercredi. Justement, les occupants vont nous expliquer pourquoi. On va aussi se glisser dans les coulisses du concours d'éloquence. La finale départementale pour les lycéens et les collégiens est prévue ce mardi. Mais Claire a pu assister à la demi-finale, c'était à Château-Gontier il y a quelques jours, vous l'entendrez. Et puis en fin d'émission, ne manquez pas le dernier épisode de notre feuilleton sur l'association Place au Vélo qui va nous parler aujourd'hui du marquage pour éviter les vols. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. La vaccination ouverte à tous les majeurs dès le 31 mai. Le calendrier s'accélère encore selon Jean Castex. Le Premier ministre a aussi annoncé hier l'élargissement de la vaccination contre la Covid-19 dès lundi à certaines professions prioritaires sans limite d'âge. Les enseignants, policiers, gendarmes, conducteurs de bus ou caissières peuvent prendre rendez-vous dès aujourd'hui sur santé.fr. Il vous suffit de présenter le jour J un justificatif, une carte professionnelle, un bulletin de salaire ou une déclaration sur l'honneur. Un pass sanitaire européen pour voyager cet été. Les eurodéputés et les États membres sont parvenus hier à un accord. Ce pass sanitaire européen devrait entrer en vigueur à partir du 1er juillet. Il contiendra un QR code indiquant que son titulaire a été vacciné, qu'il a passé un test PCR ou antigénique négatif, ou bien qu'il est immunisé après avoir été infecté par la Covid-19. Ce pass sera disponible sur smartphone, mais aussi en version papier. À Laval, l'Estaca jugé irresponsable après le suicide d'un de ses élèves. Le tribunal judiciaire a débouté hier les parents d'Adrien Gorget, 20 ans, un étudiant en troisième année d'aéronautique à l'école d'ingénieurs. Il avait été retrouvé mort dans sa chambre universitaire en 2015, laissant une lettre incriminant l'école et ses étudiants. Ses parents avaient alors porté plainte contre l'établissement, mais l'école a donc été jugée irresponsable. Ses parents envisagent de faire appel de cette décision qu'ils disent ne pas comprendre. Traité d'esclave, un livreur Uber Eats porte plainte à Laval. Il y a quelques jours, ce livreur à vélo reçoit deux messages d'une cliente. Je cite « Dépêche-toi, esclave, je vais te donner un centime, tu ne mérites que ça ». Une commande annulée ensuite par Uber Eats. Évidemment très choqué, le livreur a porté plainte pour injure non publique en raison de l'origine. Le compte de la cliente a été suspendu temporairement. Vous avez jusqu'au 10 juin pour vous inscrire dans une formation d'aide-soignant. Les inscriptions à la sélection pour une formation en septembre dans les Pays de la Loire ont lieu dès à présent. Pour rendre le métier plus attractif, la région a notamment assuré la gratuité des formations et soutenu la création de centres de formation. Les aides-soignants sont plus de 25 000 dans la région, mais les besoins sont nombreux, notamment à cause de la hausse de la population, mais aussi de son vieillissement. On termine avec du football. Le gardien des Tangos prolonge son contrat. Déjà engagé pour la prochaine saison, Alexis Sauvage a prolongé de 2 ans avec le Stade Lavallois, soit jusqu'en 2024. Le gardien lavallois a effectué une très bonne saison et fait désormais partie des cadres de l'équipe. Puis une autre prolongation certaine assurée, celle de Yazid Haït Moujane. Je vous le disais au tout début de cette émission, le théâtre de Laval reste occupé. Vous l'avez certainement vu en passant devant le lieu. Malgré la réouverture des lieux culturels depuis mercredi, les occupants donc du théâtre de Laval n'ont pas abandonné les lieux. Ils seront un peu moins présents sur place la nuit et proposeront des actions artistiques revendicatives à 17h seulement en fin de semaine. Mais tous restent mobilisés. Plusieurs occupants nous ont expliqué pourquoi lors d'une symbolique remise des clés du théâtre mercredi soir.
Alors, ce qu'on a mis en place aujourd'hui, c'est une cérémonie, entre guillemets, de remise des clés par le maire. Parce qu'en fait, nous avons obtenu, en tant que collectif, au bout de 60 jours d'occupation, l'accès au théâtre, les clés du théâtre, pour pouvoir continuer nos agoras, nos actions, etc., avec le fait qu'il y ait la réouverture des salles.
Effectivement, jusqu'ici, pour maintenir notre présence sur le théâtre, nous l'occupions 24 heures sur 24, de jour et de nuit. Là, avec la réouverture et les passages de spectateurs, ça devenait un peu plus compliqué. Nous avons rencontré le maire qui s'est affirmé soutien de notre occupation et qui nous a dit « Écoutez, même si vous n'êtes plus là les nuits, vous aurez accès au théâtre à tout moment puisque vous en avez les clés, et voilà.
La cohabitation est une évidence puisqu'en fait les lieux de théâtre sont des lieux de rencontre et de partage. La seule chose c'est que nous on a fait attention à ne pas prendre trop de place, à rester pour pouvoir informer et que tout le monde comprenne pourquoi on est toujours là.
Il y a peut-être eu des annonces, en tout cas par le ministère de la Culture, pour les métiers du spectacle. Mais par contre, il n'y a eu aucune annonce concernant la réforme de l'assurance chômage, enfin l'abrogation de cette réforme, ce pour quoi on se bat principalement. Là, il s'agit de saisonniers, de précaires vraiment, de tous les gens à mi-temps, où il n'y a aucune avancée là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on continue.
Et aussi, de toute façon, de manière sectorielle, hein, une réouverture partielle ne va pas résoudre la fracture d'un an de rupture d'activité. Il y a des dates qui s'annulent encore. La prolongation de l'année blanche est très partielle, du coup, aussi, puisque jusqu'à fin décembre, ce ne sera pas une solution. Il y aura des pertes d'indemnisation pour un certain nombre d'entre nous. On est aussi là pour défendre la notion d'un plan de relance pour le secteur d'activité. Hein. Je rappelle qu'on représente 670 000 personnes qui travaillent dans l'espace culturel. On nous donne bon an, mal an 16 millions pour essayer de relancer notre activité. On trouve que c'est des miettes. On est capable de lâcher des milliards sur d'autres secteurs d'activité et on ne comprend pas qu'il n'y ait pas plus d'initiatives qui soient prises dans ce sens. Il est question de créer une association post-occupation parce qu'on est vraiment dans le cadre d'un mouvement citoyen et l'envie c'est de continuer à provoquer des choses, à construire ensemble, à réfléchir et à proposer.
Les agora le samedi à 16h sur le parvis du théâtre sont maintenues. Celle de demain abordera le féminisme. Les occupants ont aussi pour projet d'organiser plusieurs actions artistiques dans les lieux publics, les marchés ou dans les quartiers. Affaire à suivre bien sûr. Et à suivre aussi dans cette émission le reportage sur le concours d'éloquence. Concours d'éloquence qui a donc lieu, la finale ce sera ce mardi. Mais je vous l'ai dit, Claire a été avec son micro lors de la demi-finale il y a quelques jours. Et on écoutera justement les différents protagonistes juste après Juice de Lizzo.
Don't even gotta try.
Now you know.
I like shouting, nigga, better over time.
Now you know.
They just say I'm not the baddest bitch you like.
Yeah.
reconnu, bien sûr, c'était Lizzo avec son titre Juice dans l'agité du local. La grande finale de l'élocution a lieu ce mardi à Laval pour les lycéens et collégiens du département. Et à cette occasion, Claire a pu se glisser dans les coulisses de la demi-finale, organisée au lycée agricole de Château-Gontier il y a quelques jours. Des élèves du lycée agricole et ceux de Pierre et Marie Curie récitaient des textes préparés par eux et leurs professeurs. Trois élèves de chaque lycée ont été sélectionnés par leur professeur, mais aussi par une avocate. La prochaine étape, c'est donc Laval pour la grande finale. Sébastien Rousselet, artiste et membre du groupe Rookine, est intervenu pour préparer les élèves à leur grande allocution.
Bon, c'est marrant parce qu'on traque un peu avec eux, en fait. On voit toute la fébrilité, la fragilité, la beauté aussi de tout ce qu'ils ont à dire. Et du coup, c'est un aboutissement. C'est toujours touchant de les voir après tout ce travail un peu laborieux, parfois difficile, parfois ils se découragent, ils veulent pas venir. Et puis finalement, ils sont là et c'est toujours touchant, en fait, d'assister à ça. Et ça passe très très vite, alors que ça fait plusieurs semaines, voire mois, qu'on est là-dessus. Donc c'est un peu comme la préparation d'un spectacle, à ceci près que là, il y a quelque chose de beaucoup plus fragile pour eux, et donc d'autant plus précieux, en fait. La plupart, en fait, se sont, comment dire, moi j'ai été surpris parce que la plupart ont rajouté des choses dans leur texte, en tout cas, auxquelles j'étais pas forcément préparé. Puis moi j'ai pas fait tant d'interventions que ça avec chacun, donc ça évolue vachement entre mes interventions avec les profs, parce qu'on est deux, hein. Moi j'interviens sur le fait d'écrire et le fait de dire, mais je ne fais que comment dire, qu'intervenir avec les profs qui sont là. Hein. Tout ne se fait pas grâce à mon intervention. Hein. C'est global. Hein. Je trouve qu'ils ont été globalement assez partie prenante du fait de parler de soi. Alors déjà, les sujets, il y avait des sujets imposés, hein. Notamment tout ce qui avait trait, on va dire, à la citoyenneté, et donc parler du harcèlement, parler de choses comme ça. C'est un peu presque des sujets imposés. Il y avait un choix de sujet, celui-là est beaucoup revenu parce que c'est celui dans lequel ils se sont le plus reconnus, ayant globalement tous à peu près vécu ça ou été témoins d'eux. Et donc ça, c'est un sujet qui est beaucoup revenu. Et du coup, comme c'est quelque chose qu'ils connaissent, il a fallu vite fait, gentiment, les pousser, mais pas beaucoup. La difficulté, c'était de faire en sorte que les sujets abordés soient le plus personnels possible. Parce que très vite, on peut se retrouver à dire des choses finalement pas très originales, des trucs un peu attendus, justement. Donc l'idée, c'était de les amener à parler d'eux et à se faire confiance à ce qu'ils parlent vraiment de choses... presque intime, c'est-à-dire quand on parle d'un sujet comme ça, on peut pas y aller à moitié. Donc la difficulté, elle était un peu là. Et en même temps, qu'ils puissent tenir ce propos. C'est pas forcément évident de parler de choses intimes qui nous ont blessés sans s'effondrer, sans être dans les pleurs, sans être dans l'émotionnel. L'idée, c'est de parler d'un matériau profond, intime, mais soit d'avoir du recul par rapport à ce matériau pour pouvoir en parler. Donc la difficulté était parfois un peu là. Il y a des larmes, des choses comme ça par lesquelles on passe. Mais ça fait partie du travail aussi. Et moi, ça m'intéresse beaucoup, justement, de travailler avec un matériau sensible et de voir ce qu'on peut en faire. Et pour ça, ça veut dire déjà en parler et s'en détacher. Donc il y a presque un travail vite fait, hein, parce que c'est beaucoup... Mes interventions étaient beaucoup trop rares pour parler de ça en ces termes-là, mais il y a un côté un peu art-thérapie, hein, là-dedans, hein, clairement. Hein. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup ça, parce que je m'intéresse beaucoup à l'humain, à la fragilité de l'humain et à la grande force qu'il a de pouvoir en parler de cette fragilité-là. Puis avec des jeunes de 16-17 ans, vu la période, j'étais très content de pouvoir les guider dans une expression personnelle. Ils sont quand même tous muselés, hein, notamment avec ces masques-là et avec toutes ces impossibilités qu'ils ont de pouvoir se retrouver et par conséquent de s'exprimer. Si on peut avoir une petite fenêtre de tir où ils disent un peu ce qu'ils ont sur le cœur, c'est toujours ça de prix. J'étais d'ailleurs un peu sceptique au départ parce que l'idée d'avoir un concours, moi je suis déjà la notion de compétition dans l'art me semble vraiment discutable. Autant en sport, je comprends, c'est l'équipe qui marque le plus de buts qui a gagné. En athlétisme, c'est celui qui court le plus vite qui gagne. Il n'y a pas débat et c'est très bien. Mais dans l'artistique, moi je trouve ça très bizarre de numéroter, de donner des notes à des gens. Et toi c'est bien, toi c'est moins bien, toi t'es le premier. Pour moi ça se situe pas là. Je trouve qu'on réduit vraiment la notion de l'art à quelque chose de l'ordre de la concurrence et c'est un petit peu dommage. Bon après je veux pas casser l'ambiance. Hein. Après peut-être que ça a des vertus pédagogiques que je ne maîtrise pas. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que je me suis mis en dehors de ça, moi j'étais là uniquement en intervenant et en accompagnateur plus exactement, et non pas en tant que membre du jury qui donne des notes. Je n'aurais pas été à l'aise avec ça.
Faites attention, il se peut qu'il y ait quelqu'un d'entre vous, dans votre famille, qui se fait harceler et en s'en donnant dans votre entourage.
Alors, on va avoir un temps pour délibérer.
J'ai trouvé que c'était très bien amené. Avec beaucoup de distance au début, et puis du coup beaucoup de pertinence et de cohérence sur ce que ça défend. Après, est-ce qu'il est comme ça tout le temps dans la vie, ou est-ce qu'il y avait aussi un peu de stress?
Bah, c'est mon élève en fait.
Ouais.
En fait, il est hyper timide.
Ouais, assez maladroit et fragile, mais en même temps, c'est ça qui était hyper très beau dans son.
Ouais, c'est vrai que c'est bien.
Alors Chloé, par contre, elle est comme ça dans la vie.
Ah non, mais c'est
son perso. Enfin,
elle est ce qu'elle est, quoi.
Ouais, exactement.
Mmh. J'ai marqué qu'elle avait la prestance d'une conférencière.
Chloé, qui justement a été sélectionnée pour la finale et a témoigné au micro de Claire, on l'écoute.
Je m'appelle Chloé Renou, j'ai 16 ans et je suis au lycée LMA. Bah, ça me fait plaisir parce que j'avais beaucoup travaillé sur mon discours. Et puis, c'est honorant, quoi. Mon discours était sur le harcèlement sexuel. Bah, j'ai essayé de toucher le public de près ou de loin, c'est-à-dire que j'ai raconté une histoire personnelle, ce qui fait que ça a touché le public. Puis ensuite, je suis allée un peu sur les lois pour qu'on prenne conscience aussi de la gravité. C'est souvent avec les lois qu'on prend conscience de la gravité, donc c'est à peu près ce que j'ai fait. Puis à la fin, j'ai essayé de jouer un petit coup de violon pour faire un petit coup au moral aux autres.
Je m'appelle Sandra Hervouette, je suis enseignante au lycée agricole de Château-Gontier et enseignante de français et d'histoire géo. Quand on leur propose l'éloquence au départ, j'avoue que j'ai mon collègue qui propose en face le slam. Et ils ont l'impression que c'est quelque chose de très scolaire, qu'ils vont s'ennuyer, etc. Et donc, j'ai un peu de mal à avoir de l'émulation. Et finalement, quand ils choisissent, on se rend compte qu'après, ils se donnent à fond parce qu'ils choisissent un thème qui les porte. Et souvent, ce sont des choix de thèmes très personnels, voire intimistes. Parfois même, on est nous-mêmes un peu dérangés parce qu'on se dit, on rentre dans une bulle qui n'est pas la nôtre. Mais il y a une espèce de sensation qu'ils ont besoin de parler de ça. Parfois pour en guérir, parfois pour aller mieux, parfois parce que ça va mieux. Et dans tous les cas, c'est pour partager. Et on sent qu'ils donnent de leur personne. Et ça, c'est une très belle récompense pour un enseignant. On avait des difficultés à mettre tout ça en place et à donner du dynamisme aussi. Alors déjà, on n'était jamais sûr de ce qu'on allait faire. En plus, on avait les élèves à 50%. Donc j'avais parfois, avec la personne qui venait en intervention pour les former à l'éloquence, 4 élèves. Et finalement, réussir à faire en période Covid... avec un autre établissement, un demi-finale éloquence, je me dis c'est chouette, quoi. En fait, pour ce qui est de l'évaluation, on note la forme et le fond. Donc le fond, ça va être leurs idées, leur capacité à défendre des points de vue, à argumenter, à convaincre aussi le public. Et puis pour la forme, ça va être la capacité d'orateur, le débit, le volume, le regard vers l'auditoire, ce genre de choses. C'est important parce qu'ils sont en formation conseil-vente, nos élèves de seconde. Et c'est très important pour nous qu'ils dépassent la barrière de la timidité, qu'ils puissent réussir à s'exprimer devant un public, mais aussi après devant des clients. Donc on l'a mis en place justement en classe de seconde pour ça. Ça a valeur de formation pour eux, parce que certains arrivent en classe de seconde assez introvertis. Et ce qu'on souhaite, puisqu'ils sont dans une formation en vente, qu'ils puissent dépasser ça et que ça puisse perdurer sur le reste de leur scolarité. Et leur même ensuite pour professionnellement. J'ai constaté, je pense que certains ont énormément travaillé. C'est-à-dire que, évidemment, je les boostais, mais quand on était parfois en cours ensemble, j'avais un peu peur pour eux, parce que je me disais, ça va être difficile, ils vont être en souffrance. Et là, aujourd'hui, je crois aussi de voir les autres camarades passer, de voir les camarades des autres établissements qui se donnent à fond, ils ont eu aussi envie de se dépasser, et c'est ça qui est beau. C'est comme un challenge un petit peu, mais c'est pas l'idée de revanchard ou de duel. Voilà, c'est vraiment l'idée, je fais ce que je peux, je donne ce que j'ai et adviendra que pourra. Mais ça s'est fait dans un très bon état d'esprit. En fait, il y a une certaine maturité, on le sent chez les jeunes. On sent aussi qu'ils ont des choses qu'on ne voit pas forcément et qui sont profondes. Et on apprend à mieux les connaître aussi par ce moyen-là. Moi, je connais leurs histoires intimes et je comprends mieux aussi leurs réactions en cours. Et il me semble, mais ça c'est un avis très personnel, qu'on ne peut enseigner bien que quand on connaît nos élèves. parce que ben, y a des façons des fois de réagir, on pourrait prendre ça pour nous, et en fin de compte c'est un moyen de défense, quelque chose qu'ils ont mis en place parce, du fait de leur éducation, de ce qu'ils ont vécu, etc. Donc c'est une bonne formule en fait pour être plus proche de nos élèves aussi et pour mieux les aider pour le coup. Je leur ferai l'année prochaine, je leur ferai tant que je suis dans cet établissement, et si je dois aller ailleurs, je leur ferai ailleurs. C'est un vrai coup de cœur, l'éloquence.
Et comme le dit si bien cette professeure, c'est une aventure qui ne fait que commencer. Rendez-vous pour la finale de ce 4e concours organisé dans le département. Rendez-vous donc mardi. On revient juste après une pause musicale assurée par The Tibbs avec leur titre Get Back Tuesday. Back Tuesday, The Tibbs dans l'agité du local sur l'autre radio. Et oui, revenir mardi, c'est ce qu'on va faire évidemment après le week-end, mais n'ayez pas peur, cette émission n'est pas terminée, puisque comme chaque vendredi, on découvre une nouvelle facette ou un nouveau témoignage autour du service civique. Et aujourd'hui, on part vers l'Île-Dieu avec Neptune FM qui nous propose de retrouver Louison Loprêtre, volontaire au point information jeunesse de la mairie de l'Île-Dieu. Après un contrat de 6 mois, c'est l'heure du bilan et donc de donner ses impressions.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaires en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Nous l'avions déjà rencontré dans le cadre de ses rendez-vous il y a 6 mois, en novembre 2020. Louison Loprette débutait son service civique au point information jeunesse de la mairie de Île-Dieu. Ses missions se sont terminées le 30 avril dernier. Les buts de cet engagement, c'était des missions auprès du jeune public de Île-Dieu.
Ça me permettait de travailler avec le public jeune, avec lequel je n'avais jamais été en contact. De plus, ça me permettait de développer et d'entretenir les compétences acquises lors de mes formations initiales. Et puis, dans un second temps, ça m'a permis aussi de découvrir plus en approfondi le territoire de l'Île-Dieu et le fonctionnement des services municipaux. En fait, j'avais une mission de base principale qui était de faciliter l'accès à l'information jeunesse. Donc, dans un premier temps, j'ai questionné et recueilli les attentes et besoins des jeunes en termes d'information et d'accompagnement qui nous faisait en fait une base de travail pour par la suite pouvoir l'exploiter lors des actions que nous pourrons mettre en place, notamment cet été.
Quels sont tes ressentis par rapport à ces 6 mois au service des autres?
Alors, j'ai trouvé que c'était compliqué d'être au service des autres de par la crise sanitaire et d'autre part le fait de notre non-visibilité due à notre implantation actuelle. Heureusement, d'ici l'été, nous aurons un local qui nous permettra d'avoir une meilleure visibilité et une identification certaine pour les jeunes.
L'organisation des différentes missions confiées à Louison Loprette se sont déroulées simplement dans le temps.
Ça s'est fait facilement au fur et à mesure de la mission. Tout a découlé au fur et à mesure, donc assez simplement, oui.
Pour Louison Loprette, le point information jeunesse de la mairie de Île-Dieu a bien compris le dispositif, mais une amélioration serait à apporter par l'organisme du service civique.
Au niveau de la structure point information jeunesse qui m'accueille, je ne trouve pas qu'il y ait de points améliorés, parce que certes, c'est une première pour ma tutrice, mais elle a tout mis en place pour que je sois à l'aise. Et le fait de me donner au fur et à mesure plus de responsabilités m'a permis de m'épanouir et gagner de la confiance en moi. Pour moi, le point amélioré serait la formation civique et citoyenne qui est déjà très bien. Je trouve vraiment, elle est bien faite, mais peut-être elle est plus en approfondie en fait, par rapport aux différents thèmes annoncés. Et ce qui est très bien, que j'ai trouvé, c'est qu'à la fin de cette formation-là, on nous demande en fait, les points d'amélioration. Donc, je leur en ai déjà fait part, mais ce serait bien qu'ils le prennent en compte.
Après ce service civique, Louison reste en poste au point information jeunesse de la mairie de Île-Dieu jusqu'à fin septembre 2021.
En vue du début de la saison estivale, je reste au point information jeunesse durant l'été pour finaliser et exploiter les actions sur lesquelles nous travaillons. En ce qui concerne les formations, en fait, j'ai beaucoup de chance parce que ma tutrice m'aide à trouver des formations en fait, gratuites sous forme de MOOC. Donc, c'est des formations qui se déroulent en ligne sur Internet. Et donc, je trouve que c'est super parce que ça me permet de continuer de me former tout en étant en service civique. Et puis, je vais pouvoir continuer aussi lors de mon CDD.
Si je résume, Louison, les missions que tu as faites durant ton service civique, tu vas les poursuivre durant cette saison estivale au point information jeunesse.
C'est exactement ça, oui. On va mettre en place des actions qui concordent avec les attentes et les besoins des jeunes qui nous ont fait savoir lors de l'enquête que j'ai menée.
Louison Loprette pourrait conseiller l'engagement en service civique car pour elle, cet engagement a été bénéfique.
Oui, tout à fait, parce que j'aimerais effectivement rester sur le territoire de l'Île-Dieu et avoir déjà ce bagage au niveau du travail territorial. Je trouve que c'est un point vraiment non négligeable.
Merci Louison d'avoir répondu. Bonne saison estivale.
Merci beaucoup. Au revoir.
Reportage enregistré et monté avec Baptiste Chevillon en service civique à la radio Neptune FM. Laurent, Radio Neptune FM, L'Île-Dieu.
C'était Volontaire en service civique, un engagement, des réalités. Une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
chroniques à réécouter sur l'autreradio.fr. Et puis la semaine prochaine, ce sera le dernier reportage de la série en Mayenne. Donc à ne pas manquer. En parlant de dernier, c'est aussi le dernier épisode de notre série consacrée à l'association Place au Vélo, qui vise, comme son nom l'indique, à promouvoir l'usage du vélo en Mayenne, et notamment autour de Laval. En plus des bricots vélos qu'elle organise tous les mois et de la vélo-école, l'association a aussi de nombreux projets, notamment celui d'un nouveau local pour multiplier ses actions, mais aussi celui du développement du marquage de vélos pour éviter les vols. Je vous laisse écouter les détails avec le président Philippe Moitier.
Là, on est en train de faire une acquisition de machines à graver. On a donc des kits de marquage qui sont commandés, qui arrivent demain d'ailleurs. Donc on sera opérationnel, notamment pour la journée du Tour, le 6 juin, au Square de Boston. On sera présent et on pourra donc faire des marquages de vélo. Il y a déjà quelques marquages gratuits financés par la ville de Laval. Et puis après, on pourra prendre ce rendez-vous dans notre futur local aussi pour le gravage. Alors ça consiste en un numéro qui est gravé sur le cadre et qui est donc enregistré sur une base de données. Et ça permet, quand le vélo est volé et retrouvé, les forces de l'ordre peuvent identifier, retrouver le propriétaire avec un accès à cette base de données. Ça permet de multiplier par 3 la restitution des vélos volés. Au lieu de 3% de vélos volés restitués aux propriétaires actuellement en France, on peut passer à 9%, enfin jusqu'à présent. Le procédé Bicicode, il s'appelle comme ça, qui est développé par notre fédération depuis quelques années. Et donc là, on a décidé, nous, de s'y investir à Laval, d'autant plus qu'il y a une nouvelle réglementation cette année, puisque les professionnels vendent le neuf avec des vélos immatriculés. À partir de juillet prochain, ils vendront des vélos d'occasion aussi marqués, donc chez le vendeur. Mais aussi des entreprises, effectivement, à qui on peut proposer des séances théoriques sur l'apprentissage du vélo et la mobilité à vélo pour développer le déplacement domicile-travail. Donc ça intéresse certains employeurs, ou aussi, pourquoi pas, un atelier brico-vélo hein, avec les personnels. Donc là, c'est une prestation, enfin, en quelque sorte, qu'on propose à des entreprises. Et notre fédération va le lancer un label employeur pro-vélo. Il y a déjà des entreprises qui anticipent là-dessus et qui veulent aussi s'inscrire dans cette démarche de développement durable, on peut dire. On a eu des contacts passés, mais d'autres en projet, et je pense qu'on va effectivement être plus offensif à l'avenir sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de travail encore à faire aussi, là aussi, et peut-être en complément avec les collectivités pour sécuriser certains trajets.
Je ne sais pas d'ailleurs si c'est valable pour tout. L'employeur qui prend la moitié en charge si on va au travail à vélo, c'est ça ?
Il y a effectivement déjà un abonnement sur la moitié du transport public. Hein, et ça peut aussi être valable sur une location de vélo. Ça fonctionne déjà, il y a des gens qui l'utilisent, donc ça c'est important. Il y a un forfait mobilité durable qui a pris la place de l'indemnité kilométrique vélo. Donc c'était dans la loi d'orientation des mobilités hein, qui a été votée. Et donc c'est quelque chose qui se développe. C'est aussi aux salariés d'en faire la demande, parce que pour l'instant, les entreprises ne sont pas obligées. Donc voilà, il faut aussi que les gens soient demandeurs. C'est comme pour les stationnements des vélos, c'est aussi aux salariés de demander là où il n'y a pas d'abri ou de rangement pour aller au travail. C'est important pour un stationnement long d'avoir quelque chose d'abrité.
À noter que la bourse à vélo, initialement prévue en avril, a été reportée au 4 septembre à cause des conditions sanitaires. Ce sera le moment de tous les bons plans autour de la bicyclette. L'ensemble des reportages autour de l'association Place au Vélo est à retrouver en podcast sur notre site. Et puis nous sommes vendredi, et vendredi, on feuillette à chaque fois le Haut Anjou. Et à la une, ce vendredi, le premier service de livraison de repas est arrivé à Château-Gontier. Il s'appelle Live Eat et il permet de se faire livrer jusqu'à 30 km autour de la ville. Le Live Eat est peut-être un peu moins connu que certains de ses concurrents, elle est plutôt implantée dans les villes moyennes, mais c'est le même principe avec l'application ou le site. Vous rentrez votre adresse, vous passez commande au restaurant près de chez vous, et puis le livreur vous l'apporte. Tout simplement. La particularité en tout cas, c'est que le Live Eat se dit en tout cas attentif à une juste rémunération de ses livreurs puisque 100% des frais de livraison leur sont reversés. Si on feuillette un petit peu plus loin l'hebdomadaire, on peut lire que l'art dramatique va rejoindre le conservatoire du pays de Château-Gontier. Il y avait déjà la musique, la danse, les arts plastiques, et donc l'art dramatique complète cette offre. Ce sera à partir de septembre prochain. Il y aura des ateliers théâtre dès 7 ans, donc, et puis pour les adolescents et les adultes, et puis aussi tout un cursus de formation artistique, justement avec le théâtre, mais aussi la musique, la danse et les arts plastiques complets. Les inscriptions ouvrent dès le 1er juin sur culture.chateaugontier.fr. Et puis vous l'avez peut-être vu tournoyer dans le ciel ces derniers jours, un hélicoptère d'Enedis était en train de faire des repérages pour ensuite des travaux sur les lignes électriques aériennes du sud Mayenne, puisque ces lignes électriques sont très âgées, certaines ont plus de 40 ans, voire près de 50 ans. Donc pour les entretenir, Enedis doit souvent intervenir et cet hélicoptère permet de repérer les problèmes et donc de planifier les interventions. Elles permettent notamment de limiter ensuite les coupures électriques. Comme tous les jours, pour le coup, on ne va pas manquer, même si Claire n'est pas là, la rubrique initiative. Avec la réouverture des cinémas, le Palace à Château-Gontier cherche ses ambassadeurs. Et oui, pour distribuer son programme dans les villages autour de Château-Gontier et mieux se faire connaître en milieu rural, pas évident de trouver le programme du Palace si on n'a pas Internet. Le rôle de ces ambassadeurs, justement, c'est de distribuer chaque semaine des programmes dans les commerces de ces communes. Et en bonus, si vous êtes ambassadeur, vous pouvez bénéficier de places de cinéma offerte. Plus d'infos par téléphone au 07 85 32 45 92 ou par mail à palace.chateaugontier@gmail.com. Et puis, c'est déjà l'heure de vous inscrire aux animations d'été à Château-Gontier, puisque le service jeunesse a publié son programme pour les adolescents âgés de 11 à 17 ans. Pas de camp organisé cet été à cause de la situation sanitaire, mais de nombreux stages à retrouver. Alors j'en cite trois au hasard, le monde d'Harry Potter, Cuisine du monde ou Passion glisse. Le programme complet est disponible sur le site du service jeunesse du pays de Château-Gontier. Et les inscriptions se font à partir de ce mardi 25 mai de 19h à 21h pour les habitants de Château-Gontier uniquement par téléphone à ce numéro, donc au 02 43 09 55 80. 02 43 09 55 80. Et puis sinon, de toute façon, si vous n'avez pas eu le temps de noter, cette émission est comme toujours en podcast sur l'autreradio.fr. Et oui, puisque ça y est, c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local de ce vendredi. À suivre à l'antenne à 20h, il y aura Passe-moi le thème consacré ce soir à l'année 1971. C'est la deuxième partie avec d'autres pépites musicales à découvrir ou redécouvrir de cette année-là. Et nous, on se retrouve exceptionnellement non pas lundi, puisque lundi c'est le lundi de Pentecôte, mais mardi à 12h15, soyez au rendez-vous. Nous, on sera là, je vous souhaite une très bonne journée et un bon week-end.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.